Bonjour, c'est Sylvain Dobré, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que ça fait du bien, je trouve, d'entendre ce point de vue qui, je trouve, est à l'opposé de ce qu'on a entendu hier, donc, ou assez éloigné. Et donc je voulais vous poser la question suivante. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comparer l'évolution du budget des collectivités locales avec l'évolution du budget de l'État. Donc hier, on a eu une interprétation de l'évolution du budget de l'État et des causes et pourquoi il fallait absolument que l'État faisait des réductions dans ses dépenses alors que les collectivités locales continuaient d'augmenter leurs dépenses, notamment en augmentant les embauches de fonctionnaires. Et donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir, là on voit qu'il y a une décroissance régulière des ressources des collectivités locales et donc du coup des conséquences sur le niveau d'investissement. Est-ce qu'on pourrait superposer au niveau comment a évolué le budget de l'État dans cette même période? Est-ce que quand on voit une baisse du budget des collectivités, simultanément on voit une hausse, je suis volontairement provocatrice, une hausse du budget de l'État, ou est-ce qu'effectivement, en même temps que les collectivités locales font un effort sur leur budget, l'État fait aussi un effort sur son budget?
Alors, je me permets de répondre. Parce que ce qui est intéressant dans ce qu'a montré Franck tout à l'heure, c'est sur ce deuxième slide-là, dans un premier temps, on dit... les collectivités locales, en fait, elles sont vachement raisonnables parce qu'en pourcentage du PIB, elles n'ont pas augmenté leur dette, tout va bien. Et puis, du point de vue de Bercy, oui, d'accord, mais c'est parce qu'on vous donne 67 milliards par an. Alors, ça a un petit peu baissé, là, c'est le chiffre de maintenant, mais donc, quand on a un déficit qui atteint 100 milliards par an et qu'on nous donne 67 milliards, ce qu'a très bien dit Franck, c'est que du coup, l'État dit, moi, c'est à cause de vous que j'ai un déficit. Dire ça.
Il le dit dans quel cadre?
Il le dit dans quel cadre? Dans le dialogue qu'il a en permanence avec les associations d'élus.
Est-ce que vous pouvez citer un seul rapport où cet argument est présenté de manière aussi stupide et caricaturale?
Oui, dans la présentation qui est faite chaque année à l'Europe des comptes de la nation. Tout à fait. Et donc, cette façon de faire elle a une vraie légitimité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est de considérer qu'on est dans le même bateau. C'est-à-dire que ce débat de ping-pong, c'est de ta faute, c'est de ma faute, il est juste ridicule. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il est ridicule parce qu'effectivement, c'est la même nation, c'est le même déficit, etc. Donc c'est comment est-ce que, de façon intelligente, les uns et les autres contribuent à la maîtrise, en tout cas, de la dépense publique efficiente. Mais se renvoyer la balle l'un sur l'autre, c'est pas efficace. Or, c'est la tendance qui existe à chaque fois dans toutes les prises de parole, soit des uns, soit des autres. Nous, ce qu'on développe comme idée, c'est que un des avantages qu'ont les collectivités locales, c'est cette fameuse règle d'or. C'est-à-dire que les compétences qu'on nous confie, on doit les gérer sans emprunter sur du fonctionnement. Donc c'est pour ça que collectivités locales plaident aujourd'hui de plus en plus pour plus de décentralisation. Parce qu'elles considèrent qu'en confiant à des collectivités locales qui sont plus encadrées dans leur responsabilité de maîtrise de l'endettement, eh bien, il y a plus de chances que globalement l'endettement de la nation soit maîtrisé. On va même jusqu'à dire, en tout cas c'est une position d'un certain nombre d'associations d'élus, on préférerait finalement qu'il y ait moins de dotations, même plus de dotations, qu'à la place il y ait de la fiscalité, moins de fiscalité qu'il n'y a de dotations, mais que face à la responsabilité toujours délicate d'augmenter la fiscalité par rapport à l'habitant avec un lien plus direct, comme on dit à portée de baffe, il y a plus de chances que la fiscalité globale de la nation soit modérée si on nous confiait plus de responsabilités. Donc plus d'autonomie et plus de responsabilités. C'est un petit peu ça des propositions qui sont aujourd'hui sur la table. Et en tout cas, dans le discours du président de la République et du gouvernement, cette question de responsabilité et d'autonomie commence à gagner très sérieusement du terrain, si vous écoutez ce qui est dit. Hein. La réalité n'est pas encore celle-ci. Mais le discours commence à être celui-ci. Ben, finalement, vous voulez de la responsabilité, on va vous la donner. Et donc, un des enjeux dont on va parler dans la deuxième séquence, c'est est-ce qu'à l'occasion de la réforme, de la suppression de la taxe d'habitation, on va aller dans ce sens plus de responsabilité aux collectivités locales, ou au contraire, on va aller dans le sens que semblait indiquer Patrick hier, si j'ai bien compris, recentralisation du paquet global et donc non-utilisation de la règle d'or sur un paquet important.
Oui, bon, bonjour, Denis Larigot, magistrat financier. Alors, je voudrais apporter deux précisions à votre intervention. Vous avez dit, d'abord, l'État, en résumé, l'État s'endette pour financer son fonctionnement, à peu près ça. Et ce n'est que partiellement exact. Il s'endette pour financer le fonctionnement de l'ensemble des administrations, y compris les administrations locales et les administrations sociales aussi. L'État ne vivrait pas sans subvention, enfin sans dotation. Pourtant, le petit hôpital rural, on en a besoin malgré tout.
C'est ce qu'on a mis à 67 milliards.
La dette publique.
On peut considérer que la dette de l'État, c'est aussi pour donner aux collectivités locales, tout à fait.
Voilà, elle est globale. Il porte l'ensemble de la dette de fonctionnement. Et les collectivités locales portent l'investissement en ce qui les concerne. Les hôpitaux aussi, une partie de l'investissement. Pas forcément tout, on peut en discuter davantage. Vous avez dit aussi, les collectivités locales ne sont pas responsabilisées sur leurs ressources, ou insuffisamment. Eh bien, j'ajouterai, heureusement. Et là, je suis provocateur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à collectivités de compétences comparables, on parle de communes, de départements, les différences de ressources sur le territoire, et parfois sur un territoire très proche, par exemple ici, sur le Grand Lyon, sont considérables. Et derrière, on trouve deux iniquités vis-à-vis du contribuable relativement aisé, celui qui paye les impôts. Donc, classe moyenne et supérieure. Il ne va pas s'installer, par exemple, ici, puisqu'on est sur Lyon, dans l'Est lyonnais, parce qu'il va payer très cher, et plutôt aller dans le centre ou dans l'Ouest lyonnais. Et une deuxième équité, qui est la qualité du service rendu. Vous avez des collectivités, alors c'est pas toujours il y a des collectivités bien gérées, l'autre mal gérées, il y a des collectivités qui tirent réellement le diable par la queue, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas apporter un grand niveau de service, et ces collectivités, elles sont nombreuses, elles comprennent énormément d'habitants, donc on ne réglera pas le problème en augmentant du concurrence leur dotation, ça ne fonctionnera pas, on n'a pas les moyens de le faire. Donc à un moment donné, il faudra effectivement en passer par une péréquation sérieuse entre collectivités et certainement pas par donner davantage d'autorisation, de possibilité d'augmenter la ressource fiscale des collectivités qui sont déjà bien, et voire même dans certains cas très bien. On a des collectivités qui dépensent, enfin on le voit très bien, dotées de la Cour des comptes, se posent quand même de vraies questions sur la dépense publique dans un certain nombre de collectivités.
Voilà. Alors, votre propos, c'est le slide, c'est votre dernier slide, donc on y reviendra, mais néanmoins, pour ne pas frustrer ces dialogues, on est fondamentalement d'accord sur une chose, c'est-à-dire que, ce qu'on n'a pas prononcé le terme, mais ce qu'on cherche à pouvoir, c'est en substance, c'est l'autonomie fiscale des collectivités, et que l'autonomie fiscale des collectivités, c'est une jambe d'un corps qui ne peut avancer s'il y a une deuxième jambe. Et cette deuxième jambe, 100% d'accord, c'est l'efficacité de la péréquation. Donc complètement d'accord. Après, là, on sera peut-être moins d'accord, mais bon, on prendra le débat sur les slides. C'est quels sont les gages d'efficacité de la péréquation. Et voilà, ça, je vous propose de le laisser pour la fin de notre discussion. Juste peut-être sur les chiffres, parce que Olivier, excuse-moi, mais tu n'as pas complètement répondu sur la question, et pendant ce temps-là, alors que les recettes des collectivités ont été amputées de la baisse des dotations, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'État? Et la question qui était sous-jacente à votre propos, c'est sur la période qu'on connaît, hein, qui est derrière nous, 2013-2017, quel était le degré d'effort demandé aux collectivités et le degré d'effort que l'État s'est imposé. Alors, j'ai pas de graphique sous le coude, mais si je dis ça, c'est juste pour dire que tout le dialectique a été pour nous d'arriver, parce qu'on est parvenu à nos buts, de dire, vous État, vous avez fait des efforts, bien sûr, de façon indiscutable, mais ces efforts, ils n'ont pas été faits par rapport à une amputation de la ressource, mais pas au travers d'une meilleure maîtrise de vos dépenses, et notamment de vos dépenses courantes. Puisque, en fait, ce qu'a fait l'État, c'est qu'il a, c'est un peu du jargon, il a infléchi son tendanciel d'évolution des dépenses sur cette période-là. Donc j'ai pas de graphique, croyez-moi sur parole, mais il y a bien une inflexion du tendanciel. Alors pour les collectivités, une diminution de ressources. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, voilà c'est ce qu'il y a sur le slide, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une première méthode d'association des collectivités au redressement des finances publiques locales. Là, on est en train de vivre une seconde méthode qu'on appelle dans le jargon les contrats de Cahors, et ces contrats de Cahors résultent du fait qu'on a demandé à l'État de dire, bah, on va, puisqu'on est dans le même bateau, il faut qu'on partage la même méthode. Vous imposez une maîtrise quant à l'inflexion de la courbe des dépenses, ben nous, on va avoir aussi, on va s'engager contractuellement pour infléchir l'évolution de nos dépenses, et pour faire simple, à hauteur de 2%, c'est-à-dire pour fixer les idées, sans rentrer dans les détails techniques, à hauteur de l'inflation. Mais ça, c'est la période qu'on est en train de vivre, on y reviendra au travers des questions, si vous voulez.
Oui, Joël Beaugrasset, je suis le seul élu de toute la promotion, et je suis conseiller départemental. Et en fait, depuis 2001 déjà, donc j'ai vu successivement certaines capacités fiscales des départements disparaître. Enfin, celle que j'ai le plus en tête, c'est la suppression de la vignette automobile. Et là, véritablement, c'était l'incompréhension, parce que celui qui avait une voiture de 2 ou 3 chevaux payait une petite vignette, celui qui en avait une grosse, il payait une grosse, au moins c'est un impôt juste, et qui était en lien véritablement avec l'activité du territoire, même si, en effet, l'intérêt aussi c'est d'avoir la péréquation pour faire en sorte que certains autres départements qui ont peu de flotte automobile, donc peu de monde, puissent avoir recours à des moyens financiers, mais là véritablement avec un impôt direct, à portée de baffe, comme vous le dites si bien. Et ça a été quand même un élément déclencheur, enfin moi je trouve, hein, ça a été un élément déclencheur pour couper cette dynamique de ressources locales. Et moi je le vois bien aujourd'hui, je suis dans un département de la Haute-Savoie où on a encore la chance d'avoir une activité immobilière forte, ce qui veut dire que les droits de mutation sont importants, mais c'est une part, c'est un cinquième de notre budget départemental, même si on est écrété pour participer à l'effort national par rapport aux autres départements qui sont en difficulté, ça c'est quand même quelque chose d'important. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que globalement dans le graphique et dans toute votre expression, vous parlez souvent de la question de l'investissement. Si on veut dégager de l'investissement, il faut diminuer les frais de fonctionnement. Je reparle d'un département, mais c'est la même chose pour les collectivités territoriales locales ou régionales. Globalement, la masse salariale, la présence des hommes et des femmes dans ces collectivités territoriales ont un rôle important pour le ciment de notre société. Donc, à chaque fois qu'on serre les boulons comme ça, de toute manière, on crée des inerties dans nos services, puisque les gens sont inquiets, se posent beaucoup de soucis. Sur une masse de 3000 personnes, je peux vous dire que si chacun prend un quart d'heure, 20 minutes dans sa journée pour se poser des questions sur le fait que est-ce que le département va exister ou pas exister, je ne vous explique pas l'inertie du paquebot à ce niveau-là. Mais ça, ça ne se mesure pas, parce qu'on n'a pas de tableau qui nous dise ça, et en même temps, on n'a pas de manière très humaine de réfléchir à ça, alors que, parallèlement, au même titre que l'État a décidé à certains moments de supprimer des ressources fiscales comme celle-ci, en même temps, son personnel s'est retiré des territoires, puisque les DDE foisonnaient de personnel, ingénieurs et autres, qui étaient là pour épauler les collectivités locales, sont partis, ce qui veut dire que l'instruction des permis de construire, il a fallu créer des services en périphérie. Hier, une personne disait aussi la création d'une police municipale. Enfin bon, toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'en fait, on s'arme avec ce qu'on peut, forcément, en ayant des obligations. Le budget de l'eau et assainissement est un budget qui doit être indépendant et il doit être positif. Également, les ordures ménagères. Donc, la marge n'est pas forte, mais en même temps, l'intérêt, c'est quand même de servir son pays. Hein, en fait, déjà, en termes de service public, avant même de parler de la question de l'investissement. Donc, c'est quand même un dilemme important et on ne le pense pas suffisamment à se dire que dans les collectivités territoriales, c'est aussi, et là je parle plus pour les personnels qui travaillent que nous-mêmes les élus, parce que de toute manière, si on dit il y a trop d'élus, on va fusionner, on va faire un conseiller territorial, bref. Enfin bon, il faut aussi que les élus, on ait la possibilité d'avoir du temps pour comprendre notre territoire et pas faire que d'être dans des grands hémicycles où on a des temps de parole réduits et on a peu de temps de travail dans les commissions et autres. Donc tout cela fait que on crée des inerties en faisant ce système-là et en donnant moins d'argent au local. Et par rapport à mon voisin, moi je pense que même si les collectivités locales elles ont des capacités à lever de l'impôt, par le système de la péréquation, c'est plus facile que de dire on supprime, on met une dotation. Parce que dans ce cas-là, ben, on refuse tout à l'État, puis il se débrouille.
Et on met des sous-préfets plutôt que des élus locaux, ils vont gérer les collectivités locales. Très bien.
Votre intervention me fait penser à quelque chose, c'est que je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le fonctionnement, c'est-à-dire que les contrats de Cahors posent un problème, à mon sens, il y a plusieurs problèmes un peu techniques, etc., mais il y a un problème, c'est que ça pointe tout d'un coup des dépenses de fonctionnement comme étant des dépenses d'administration générale. Or, le cœur d'un bon nombre de compétences sont en fonctionnement, point. Une fois que vous avez construit vos lignes de travail, on va prendre quelque chose qui pourtant génère un fantasme d'investissement parce que ça perturbe toute la ville. Le gros du budget transport, après, il est en fonctionnement. Voilà. Et le service public est rendu en grande partie en fonctionnement. Donc, je pense que c'était ça que vous vouliez dire. Et je suis assez d'accord pour dire que le biais des contrats de Cahors, c'est d'avoir dit tout d'un coup, oh là là, l'objectif c'est ça. Alors derrière, il y avait des objectifs de dette, etc. On va pouvoir en parler là-dessus, hein, c'est un autre débat. Mais il est important, suite à cette mise en place des contrats, de monter une certaine pédagogie collective pour dire attention, l'effort collectif sur la dépense, on peut le faire collectivement, mais attention de ne pas tirer à boulet rouge sur des activités structurantes qui se passent en fonctionnement.
Mais juste une dernière remarque, on a vraiment perdu la bataille de l'opinion sur le vocabulaire, et ça c'est, et on s'en aperçoit même plus grâce à vos interventions, merci de vous le rappeler, sur le terme fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on discute nous avec les journalistes, fonctionnement n'est pas compris comme production de services publics, que ce soit dans le domaine social, dans le département, mais comme des dépenses de communication, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et 99% des dépenses de fonctionnement, et je ne suis même pas sûr que le reste, entre guillemets, ça fasse 5%, mais enfin, mettons 99% des dépenses, c'est des dépenses de production de services, et on se rejoint, qu'elles soient en investissement ou fonctionnement, c'est de la production de services. Et cette forme de stigmatisation des dépenses de fonctionnement est dramatique, hein, mais on l'a, et j'en ai conscience, hein, on l'a intégré malheureusement.
Un très bon exemple, c'est la rémunération des enseignants, qu'ils soient du public ou du privé sous contrat, bon, ils démarrent du budget d'État, peu importe. En France, c'est comme ça. Mais effectivement, ce sont des dépenses de fonctionnement. Et derrière, ça produit un service contraire. On peut diminuer ces dépenses de fonctionnement, et donc le nombre d'enseignants, c'est très possible, hein, mais on aura peut-être plus d'élèves par classe, ça va jouer sur le service contraire.
Alors, justement, je voulais arriver précisément sur ce point-là, sans pardonner la naïveté de ma question et ne voyez pas une injure à tous ceux qui font de la finance, mais pour moi, quelque part, l'argent et la finance, c'est au service d'un objectif, c'est pas l'objectif en soi. Et donc, est-ce que dans ces discussions budgétaires, vous discutez de la finalité des politiques publiques? Je prends l'eau et l'assainissement, par exemple, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. On sait qu'on a des obligations européennes vis-à-vis des directives aux résidus européennes, qui est plus contentieux, tout ce qu'on veut. Donc des retards d'investissement sur la mise aux normes, l'adaptation des réseaux, par définition, on va se le reprendre en retour de manivelle au niveau européen. On parle transition énergétique, accord de Paris sur le climat, c'est très bien. Qui est-ce qui subventionne les rénovations énergétiques des bâtiments, etc. On voit que là-dessus, en termes de trajectoire pour tenir les engagements internationaux de la France, on n'est pas du tout à la maille. Donc, est-ce qu'à un moment, on se dit, on raisonne objectif de politique publique, ou est-ce qu'on raisonne avant tout budget et contraintes financières, etc. Enfin, quelle est la part des objectifs de politique publique en tant qu'objet ayant un impact sur le territoire, une finalité, un engagement politique derrière, dans les discussions qu'il peut y avoir entre collectivités et l'État.
Bon, je vois que le président arrive. Juste rapidement répondre à la question. Justement, c'est là-dessus qu'on essaye de placer le débat aujourd'hui. En disant, c'est le même bateau, c'est la même dépense, maintenant, à quoi ça sert et où est le bon endroit pour faire la bonne dépense. L'exemple de la transition énergétique, il est typique de ça. Aujourd'hui, et pas aujourd'hui, dans les années passées, on a toujours des ministres qui sont très contents d'annoncer de la défiscalisation ou de l'aide pour changer ses fenêtres. Qu'est-ce qui se passe sur les territoires ? Vous avez des margoulins qui créent une société, qui vont dans les campagnes, qui disent regardez, l'État vous demande de changer les fenêtres, ils les vendent 3 fois plus cher, et en plus, ils leur font prendre des crédits à la consommation. Puis, quand la fenêtre est mal posée 2 ans après, vous appelez, et la société n'existe plus parce qu'elle est partie sur le marché des chaudières ou sur le marché des panneaux solaires. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent avec de l'effet d'annonce sans se préoccuper de l'efficacité de la réponse. Quand on est dans une collectivité locale, comment on fait ? Alors, je ne dis pas qu'elles font toutes bien, mais d'abord on fait une thermographie aérienne, on regarde avec le cadastre où est-ce qu'il y a des bâtiments qui fuient, on corrèle ça avec les revenus moyens des habitants et on dit c'est là-bas qu'il va falloir mettre le paquet, aider, etc., etc. Si on donnait plus de capacité à être responsable de ces questions-là au niveau local, les choses seraient plus efficaces. Ce qu'on cherche, c'est l'efficacité du service public. C'est pas une bataille, est-ce que c'est l'État ou pas l'État, etc. C'est où est-ce que c'est le plus efficace, hein, à quel niveau est-ce qu'il faut que ce soit, réalisé. C'est ça le sujet, en fait, aujourd'hui.
Oui, donc Nicolas Lecour, Fédération des travaux publics dans l'Ordre de France. On a fait récemment avec la CBIétude régionale de construction un document sur l'état des lieux, des infrastructures régionales, donc voirie, canalisation, et avec une valeur à reconstruction et une valeur aussi en état, je vous l'enverrai, sur justement la qualité des réseaux, et notamment en canalisation, on a un taux de renouvellement de 150 ans pour l'ensemble des réseaux, ce qui n'est quand même pas exceptionnel. Un point aussi par rapport à ça, peut-être pour modérer, peut-être le propos, c'est aussi quand on travaille avec les grandes structures, les agglomérations, les communautés urbaines notamment, ou les métropoles. On voit aussi dans les services, des gens, alors ça peut être choqué, des gens qui disent « oui, mais la démocratie là-dedans », les gens des services aujourd'hui peuvent parfois aussi, alors évidemment pas aller contre la volonté de l'élu, mais modérer aussi le lobby de certains élus en ayant cette vision sur 5, 10, 15 ans dans des grands aménagements. Et certains nous le disent, alors évidemment, lors des réunions, mais on a cette capacité de travailler avec vous, d'amortir un peu cet effet cyclique, et, alors c'est cette question avec cette démocratie aussi, mais plus c'est donné à des services déconcentrés ou à des intercommunautés qui ne dépendent pas directement du cycle électoral et de l'électeur initial, ont un peu plus de capacité de prendre du recul et d'avoir cette vision à moyen terme.
C'est un peu moi ce que je voulais donner comme réponse. C'est vrai que ça a été particulièrement important parce qu'il y a eu un cumul de 2 effets la dernière fois. C'est la baisse des dotations. Le vrai sujet, c'est la baisse des dotations qui s'est traduite immédiatement par une baisse de l'investissement. Et nous, on l'avait dit au moment où le gouvernement Hollande a annoncé la baisse des dotations, on dit... vous voudriez qu'en baissant nos dotations, on maîtrise nos dépenses de fonctionnement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va arrêter l'investissement. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ça ne pouvait pas être autrement. Parce que vous ne pouvez pas virer les gens du jour au lendemain, fermer des crèches, fermer des écoles, etc. Le fonctionnement, c'est le service public, ça a été dit tout à l'heure. Alors que l'investissement, bon, si on retarde le renouvellement d'eau et d'assainissement, on gaspille de l'eau, mais ça ne se voit pas, d'une certaine manière. Les nids de poules, ça se voit un petit peu. Et on a dit non seulement ça va baisser l'investissement, ce qui était le cas, et on a dit ce qui va être le cas, et ça coûtera à tous, à nous, plus cher plus tard.
Ça s'appelle la dette grise en fait.
Parce que c'est plus cher de ne pas avoir entretenu et de refaire que d'avoir entretenu de façon régulière. Voilà. Donc c'était vraiment une très mauvaise méthode. Celle-ci est quand même un petit peu meilleure parce que, même si avec tous les défauts qu'elle a, il y en a beaucoup. Celle-ci, en fait, elle acte que quand même, il faut du fonctionnement. Alors,
tu dis, c'est pas, ça dit que le fonctionnement, c'est pas bien, mais ça dit aussi que mais il en faut, tu vois. Le fait de plafonner le fonctionnement, c'est vrai.
Oui, donc moi, je voudrais intervenir. Pierre Anchef, je suis directeur des services d'une interco ici à proximité de Lyon, à Villefranche. Donc je voudrais réagir par rapport à l'interpellation de la collègue pour... mais je ne vais pas reprendre parce que les intervenants finalement ont très bien répondu sur les deux questions. Pour dire qu'au contraire, moi je trouve... je suis d'accord avec la relativisation de l'effet du cycle, hein, parce qu'effectivement il est très relatif, et il n'y a pas que le bloc communal qui y investit, il y a aussi les autres niveaux, et il n'y a pas non plus que les collectivités territoriales, il y a aussi d'autres grands opérateurs. Mais je pense fondamentalement que ce qu'a dit M. Rebelle est tout à fait vrai, c'est-à-dire que le coup de frein il a eu lieu à cause de la baisse des dotations, il ne faut pas aller le chercher dans le cycle électoral. Le coup de frein sur l'investissement public, c'est d'abord la baisse brutale des dotations entre 2012 et 2017. Et deuxième point, c'est que je pense extrêmement sain sur le plan démocratique que des équipes municipales qui s'installent en début de mandat puissent avoir la liberté de faire des choix politiques, de revoir les investissements qui ont été conduits sur les mandats précédents, éventuellement d'en porter d'autres, puisqu'elles ont en général été élues pour ça, et du côté des administrations locales, de pouvoir aussi faire un bilan, hein, et rationaliser des choix d'investissement à l'aube d'un mandat qui commence. Donc je pense que tout ça est quand même plutôt sain, à la fois sur le plan technique et politique. Et par ailleurs, pour les entreprises, les collectivités territoriales ne sont pas leurs seuls donneurs d'ordre non plus.
Bon, peut-être qu'on...
Deuxième point, est-ce que vous intervenez sur les 2% là, sur les fameux contrats de cœur, ou est-ce qu'on lance le débat dès maintenant? Parce que là aussi,
les contrats de cœur, c'est pour ça que j'ai mis le slide sur l'aspect critique, parce qu'effectivement, on a mis en exergue collectivement la différence entre le contrat de cœur et la baisse des dotations. C'est pas binaire comme dialectique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système insupportable, un système merveilleux, bien évidemment. Donc les contrats de cœur, je vais juste dire une seule chose. C'est qu'ils ont, par rapport à la période précédente, c'est le slide d'avant, effectivement, positif fondamentalement. Il y a quand même un problème de fond, mais qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils ont été conçus à l'aune des pratiques de gestion de l'État, c'est-à-dire qu'on va piloter la dépense, alors que vous-même, qui êtes en action de la collectivité locale, vous pilotez un solde d'autofinancement. Donc d'un côté, on pilote du brut, de l'autre côté, on pilote un solde. Et cette contradiction-là fait que dans les contrats de cœur, il y a des effets pervers. Et ces effets pervers, c'est qu'on va sous-valoriser les recettes de type mécénat, de type subvention européenne, etc. etc. Et c'est ça qui est notre chantier dans les semaines à venir, en l'occurrence. Mais voilà, peut-être que le temps passe et qu'on ne va pas aller plus en avance que les contrats de cœur.
Je vais dire quelque chose. Oui.
Si, moi je voudrais réagir sur le contrat de cœur. Non, je pense que c'est quand même une régression démocratique importante, notamment par rapport au principe de libre administration des collectivités territoriales, que d'avoir fixé cette norme de 1,2% de manière unilatérale. Alors on dit c'est un contrat, en fait, ce n'est pas un contrat. C'est un contrat défini unilatéralement par l'État, sur lequel il n'y a quasiment pas de possibilité de le négocier, en tout cas de négocier sur le taux. Donc moi j'ai beaucoup de critiques par rapport au contrat de cœur. D'abord je pense que c'est un peu quelque part une injure faite à la capacité des élus à faire eux-mêmes des choix démocratiques. Les élus qui sont élus, ils sont censés arbitrer non pas uniquement sur la répartition des dépenses, mais ils arbitrent aussi dans les collectivités locales sur le niveau de ressources et notamment sur le niveau de prélèvement fiscal qui est imposé aux contribuables qui, pour partie, les ont élus. Donc je trouve que déjà sur le premier point, sur le plan technique et démocratique, je pense que c'est déjà un premier recul. La deuxième question, peut-être plus fondamentalement, c'est que, enfin, au bout, alors, le résultat a quand même permis de freiner quand même la dépense publique locale, donc il faut bien dire, sur les quelques 300 collectivités qui ont été soumises à l'exercice, ça a porté ses fruits, mais dans le même temps, ça produit quand même des situations qui me paraissent un peu absurdes sur le plan budgétaire. Et pour revenir sur la question de l'investissement tout à l'heure, c'est-à-dire que les collectivités locales qui ont baissé fortement donc leur leurs dépenses de fonctionnement, ou en tout cas les ont contraintes à 1,2%, celles qui connaissent des augmentations de recettes fiscales importantes se retrouvent avec des capacités d'autofinancement importantes, et de toute façon elles ne pourront pas financer d'investissements qui engendrent derrière des dépenses de fonctionnement. Donc je pense que, ce que va produire le système, c'est aussi un peu ce que Bercy cherche, c'est-à-dire ça va accroître le niveau sans doute trop élevé des fonds de roulement qu'on a sur les collectivités locales, et donc le ministère des Finances va pouvoir dire bah, continuons à prélever, parce que de toute façon ils disposent de trop de ressources et ils n'en font rien. Je pense que la meilleure méthode, peut-être plus claire et plus transparente, ce serait de poursuivre, puisqu'on sait bien qu'on est tous confrontés à l'effort de redressement des finances publiques et au respect des contraintes européennes, mais ce serait plutôt, moi ce qui me semble plus clair, c'est de continuer à baisser les dotations. Parce qu'à partir de là, ben, les élus peuvent faire des choix clairement. Sur le chiffre du contrat de cœur, en vérité, il y a beaucoup de collectivités qui, indépendamment de ce chiffre de 1,1%, confrontées elles-mêmes à la nécessité de redresser leur capacité d'autofinancement, se retrouvent en fait à ce niveau-là. Mais elles se retrouvent en l'ayant décidé elles-mêmes, sans que ce soit imposé par une espèce de contrat léonin qui leur impose en contrepartie de cet effort une baisse future, en tout cas qui laisse entrevoir une baisse future de leur dotation. Ensuite, l'autre effet pervers, c'est que sur cette contrainte de dépenses de fonctionnement, on sait que dans nos dépenses de fonctionnement dans les collectivités, c'est la masse salariale qui est quand même importante, à peu près à 50% sur le bloc communal. Or, une des manières quand même de se tirer de ce... de s'affranchir de cette contrainte des 1,2% ou 1,1%, c'est d'essayer de transférer une partie de cette masse salariale à l'extérieur, et donc ça incite quand même quelque part à déléguer au secteur privé, à déléguer au secteur privé sous forme de délégation de services publics des dépenses de fonctionnement qui sont coûteuses, sans être vraiment sûr de maîtriser in fine les dépenses. Voilà.
Non, d'accord, non. Rapidement, parce que je vais me mettre dans la position du défenseur des contrats de cœur. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a, de façon un peu cynique, plutôt accompagné que rejeté. Pourquoi ? Parce que quand le nouveau gouvernement est arrivé, Bercy avait en tête non seulement de continuer la baisse de dotation, mais en plus, avec l'annonce de la suppression de la TH, de ne pas remplacer les dotations par de l'autonomie et de la fiscalité. Parce que nous, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le but ultime, c'est moins de dotations, plus de fiscalité. Mais si c'est moins de dotations et pas plus de fiscalité, c'est compliqué quand même. Donc ce qu'on a obtenu avec les contrats de Cahors, c'est en fait une moindre hausse. Et non pas une baisse. C'est ça qu'on a obtenu quand même. On savait, en acceptant ça, de façon cynique, que, un, on gagnait l'année de mise en œuvre du dispositif. Donc on n'aurait pas eu de baisse, et on n'en a donc pas eu, en 2018. On gagnait l'année 2019. Pourquoi on savait qu'on gagnait l'année 2019 ? Olivier pourra peut-être le dire tout à l'heure. Tous les DG des grandes agglomérations concernées s'était préparé à la poursuite de la baisse des dotations. Donc avait réorienté le paquebot. Et un paquebot, vous ne le rechangez pas, vous ne repartez pas à la dépense facilement. Quand vous avez allégé vos... Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les grandes collectivités, on n'a pas remplacé les fonctionnaires, c'est 1 sur 2, c'est on a remplacé 0 pendant 3-4 ans. Et donc, quand vous avez moins de personnes pour faire des projets d'investissement, vous ne relancez pas l'investissement. Enfin, tout ça est très long. Donc, on savait que 2019, on tiendrait les 1-2. Et effectivement, on les a tenus. On savait qu'en 2020, il y a des municipales. Et ce n'est pas en 2020 que le système va changer. Donc, on savait que ces trois années-là, au moins, on avait des finances locales qui allaient pouvoir un petit peu se redresser. Par contre, ce qu'on ne souhaitait pas initialement, et qu'on ne souhaite toujours pas, c'est que cette contractualisation ne porte que sur la dépense. On aurait souhaité que ça porte sur la dépense, diminuer de l'augmentation des recettes. Donc c'est cette bataille-là qui n'est pas encore gagnée, mais qu'on espère bien gagner dans le projet de rectification la loi de programmation des finances locales qui devrait arriver prochainement. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on augmente notre capacité d'autofinancement, en fait. Ce qui est une aberration, à un moment où jamais les taux d'intérêt ont été aussi bas, et où, en fait, on propose de nous désendetter, et donc de faire payer à la même génération les investissements d'hier, et en cash, les équipements qui seront utilisés demain. Donc là, il y a un problème qui reste à résoudre. Mais disons qu'on a choisi la solution du moins pire. Voilà. Mais ce n'est pas la solution idéale, on est bien d'accord. Maintenant qu'on a ces 3 ans qui vont être passés, on est en train de travailler pour avoir quelque chose de plus efficace, plus intelligent. Et la réforme clé qui va nous permettre de savoir si on est allé dans le bon sens ou pas, ou si on s'est fait avoir ou pas, ça va être la réforme de la taxe d'habitation.